journal Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand c'est plus la mer qui prend l'homme, mais l'homme qui prend la mer. Les océans réchauffés, pollués, acidifiés. On en parle à Brest. À partir d'aujourd'hui, un sommet pour mieux les protéger en jeu et illustration dans un instant. Des convois sur le départ en voiture, en camping-car, direction Paris, à l'image des routiers canadiens qui bloquent Ottawa. Des Français veulent se faire entendre contre le pass sanitaire et la vie chère. Retour sur une vaste séquence diplomatique. Emmanuel Macron en pleine crise ukrainienne. Ça n'est toujours pas le moment d'annoncer sa candidature. Ukraine et campagne électorale, sujet du grand entretien ce matin avec votre invité Nicolas.
Oui, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui dialoguera avec vous dans une petite demi-heure. Appelez-nous 01 45 24 7000.
Prière de changer ses respirateurs au plus vite. L'agence du médicament hausse le ton contre Philips et certains de ses appareils utilisés contre l'apnée du sommeil. Ils sont dangereux pour la santé, mais Philips tarde à les remplacer. Et puis une grande voix dans ce journal, celle de l'artiste dissident chinois Ai Weiwei. Il publie ses mémoires de combattant.
France Inter. Tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. Et les océans ne sont pas aussi immenses qu'on l'a cru à un moment donné. La capacité d'autopurification de l'océan est dépassée à l'heure actuelle, largement.
Cette voix, c'est celle du commandant Cousteau en 1970, il y a 52 ans. Combien depuis de tonnes de plastique et d'émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent les mers? Si la planète est bleue, c'est qu'elle est composée d'eau sur les deux tiers de sa surface. Le sommet qui s'ouvre à Brest aujourd'hui va donc se pencher sur ces immenses réservoirs en péril. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Florence.
Une vingtaine de chefs d'État sont attendus vendredi au chevet d'un océan malade, Célia.
Oui, le diagnostic est désormais partagé par les scientifiques, les politiques et les ONG présents ici à Brest pour le sommet. L'océan s'essouffle, se réchauffe, s'acidifie, il est soumis à différentes pressions. Et pourtant, cet espace est crucial pour notre survie, insiste la biologiste Françoise Gaille, elle est spécialiste des écosystèmes profonds.
L'océan, c'est ce qui nous permet de rester à la surface de la Terre, de survivre, par exemple au changement climatique. L'océan absorbe même les 90% de la chaleur qui résulte des gaz à effet de serre. Et s'il n'y avait pas l'océan, mais on serait cramé à la surface de la Terre. On ne pourrait pas survivre. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire l'océan, c'est aussi un espace de ressources extraordinaires. C'est un trésor. C'est formidable.
Alors quel remède, Célia, pour soigner l'océan ?
Oui, et des remèdes acceptables par tous, mission très difficile. Protéger 30% des mers et des océans, l'ONU le souhaite, mais tous les États ne sont pas pour. Écrire un traité pour que la haute mer ne soit plus un Far West sans loi, cela fait 10 ans que les négociations patinent. La France veut profiter de cette rencontre ici pour faire avancer certaines discussions. Des armateurs présents ici à Brest pourraient par exemple s'engager à réduire les émissions de CO2 de leurs navires. Des maires de villes côtières discuteront d'une meilleure adaptation à la montée du niveau de la mer. Il sera aussi question d'un traité pour limiter la pollution plastique, mais certains sujets qui fâchent, comme la surpêche, pourraient être abordés seulement de loin. D'ailleurs, certaines puissances maritimes, la Russie ou la Chine, brillent par leur absence. Elles s'opposent par exemple à la création de nouvelles aires protégées dans l'Antarctique.
Célia Quiret à Brest pour France Inter. Alors l'un des poisons des océans, vous l'avez dit, ce sont les plastiques qui s'y accumulent. On les retrouve dans les ventres des poissons et dans les nôtres par extension, surtout dans les populations qui se nourrissent essentiellement grâce aux ressources de la mer. Comme en Malaisie. Reportage signé Gabriel Maréchaux.
Il est là sous toutes ses formes, en brochette, grillée, en quenelle. Au marché de Kuala Terengganu, le poisson est roi. Elisa, devant un stand, n'a pas encore fait son choix.
Alors il y a des dorades, là des maquereaux et là des maquereaux grillés.
Vous mangez du poisson tous les jours ?
Bien sûr, je suis malaisienne et en plus, je suis du Terengganu.
Ces poissons sur les étals sont au milieu d'une chaîne alimentaire contaminée aux microplastiques, ont montré les recherches du docteur Youssouf, un biologiste marin qui a fini par s'interroger sur le dernier maillon de cette chaîne, l'homme.
J'ai des problèmes d'ulcère à l'estomac. Un jour, je consultais le docteur Lee, je lui ai posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas de plastique dans mon estomac ? Il m'a dit qu'on ne savait même pas si c'était possible.
Intrigué, ce gastro-entérologue décide alors d'apporter son aide pour analyser des tissus humains récoltés après les ablations du côlon.
Nous avons trouvé en moyenne 300 particules de microplastiques dans chaque côlon. Et l'on sait qu'elles peuvent libérer des substances qui, combinées, peuvent causer des troubles inflammatoires des intestins et également des cancers.
Ces microplastiques proviennent-ils seulement des milieux marins ? Combien de temps peuvent-ils rester dans le système digestif humain ? Et peut-on faire un lien avec la hausse mystérieuse de cancer du côlon chez les jeunes ? Ces chercheurs l'admettent, leur découverte pose encore plus de nouvelles questions. Kuala Terengganu, Gabriel Maréchaux, France Inter.
Et des dizaines de milliers de poissons morts au large de La Rochelle, c'était la semaine dernière. Des des merlans bleus rejetés par un bateau parce qu'ils ne valent pas assez cher. On appelle ça un incident de pêche. L'ONG Sea Shepherd a porté plainte hier contre le navire-usine battant pavillon lituanien.
France Inter, 8h05, non aux contraintes sanitaires et aux vaccins.
On a vu ce que ce mouvement donnait au Canada. Des centaines de poids lourds qui bloquent Ottawa depuis plus de 10 jours, autoproclamés convois de la liberté. Ils inspirent en France, où plusieurs convois sont sur le départ aujourd'hui, direction Paris ce week-end, puis Bruxelles lundi. 275 000 personnes soutiennent le mouvement sur Facebook avec un mélange de revendications contre le pass vaccinal et pour le pouvoir d'achat. Ambiance gilet jaune, Béatrice Duguet.
Peggy Dezander est professeure de yoga installée dans le Berry. Elle laisse son cabinet plusieurs jours pour mettre directement le cap sur Bruxelles avec sa voiture. Trois autres femmes dedans, de professions diverses, enthousiasmées par le mobile de la manifestation.
Je suis une maman, je suis une femme entrepreneur et jusqu'à ce jour, depuis qu'il y a eu toutes ces mesures invraisemblables, eh bien on m'a empêché de travailler, on a empêché les gens de vivre correctement avec cette pseudo-pandémie qu'on a bien voulu nous faire croire. Et là, il est temps quand même de laisser les gens vivre et revenir à un état de droit. Donc c'est ça qui me motive en premier lieu.
L'humanité est en train de renaître, dit-elle. Anti-vax, elle loue les traitements jugés inefficaces par les études scientifiques. Elle a prévu de faire des haltes dans des points relais solidaires sur le parcours. Elle y croisera peut-être Stéphane Bergot, chauffagiste, qui part avec un ami de Brignoles tout à l'heure, avec sa fourgonnette aménagée pour pouvoir y dormir. En désaccord avec le pass vaccinal, ses préoccupations rejoignent également celles des gilets jaunes dont il a fait partie.
Parce que c'est pas que pour les libertés aussi, quelque part, c'est aussi pour l'augmentation du gasoil. Bah, je peux même pas augmenter les tarifs parce que déjà, c'est dur pour les gens, pour les devis, ça passe pas autrement. Je suis obligé de prendre sur moi. Quoi.
Stéphane Bergot ne sait pas trop à quoi va ressembler le parcours, ni le rassemblement à Paris. Il pense que les décisions seront collectives, alors que des porte-paroles semblent avoir déjà bien organisé le rendez-vous.
Mouvement surveillé de très près par le ministère de l'Intérieur. Le mouvement s'organiserait dans des proportions importantes, selon Gérald Darmanin. Pouvoir d'achat et facture de gaz et d'essence, le PDG du groupe Total, Patrick Pouyanné, annonce ce matin un chèque de 100 euros pour les abonnés au gaz en situation de précarité énergétique. 200 000 clients sous forme de remise sur facture. Il annonce aussi des remises en caisse pour les clients de ces stations-service. 5 euros pour un plein de 50 litres. Deux gestes alors que le groupe dévoilera demain des bénéfices records pour 2021. Pendant ce temps-là, c'est un autre front qui occupe Emmanuel Macron, l'Ukraine. Et deux jours de marathon diplomatique de Vladimir Poutine à Moscou, au président ukrainien à Kiev, avant un débriefing à Berlin hier soir avec le chancelier allemand et son homologue polonais. Trois pays unis pour préserver la paix, voilà leur message. Emmanuel Macron croit en des solutions concrètes pour une désescalade et sa déclaration de candidature à la présidentielle peut encore attendre, Maxence Lambrecq.
La présidentielle, va falloir y songer à un moment, sourit-il dans l'avion qui l'amène à Kiev. Puisque Vladimir Poutine n'est pas prêt de relâcher la pression, il n'aurait, admet-il, aucun intérêt à le faire.
Notre volonté pour les prochaines semaines et les prochains mois,
c'est de maintenir le dialogue pour éviter le dérapage. Avec dans les prochains jours, entre un aller-retour à Brest et le sommet UE-Union africaine, un nouvel appel prévu avec Joe Biden, un autre avec Vladimir Poutine. Demain, alors qu'il sera à Belfort pour annoncer la construction de centrales nucléaires, son plus proche conseiller diplomatique sera à Berlin avec ses homologues russes et ukrainiens pour une importante réunion. Emmanuel Macron cherche à valoriser cet engagement diplomatique. Il l'a fait durant cette tournée auprès de la presse nationale. Mais pour son ancien Premier ministre, c'est clair, il prend là un risque électoral, dit Édouard Philippe, celui de se faire finalement humilier par Moscou ou accusé de gesticulation lointaine.
Est-ce que la tâche a une part d'ingratitude ? Oui, résolument. Est-ce que pour autant il convient de l'abandonner ? Non.
Étant donné la tension, je n'ai aucun état d'âme, complète le président, dont l'agenda est presque rempli pour les 10 prochains jours.
Et comme on ne peut pas être sur tous les fronts, Emmanuel Macron n'a pas pu assister au dîner des Arméniens de France hier soir, remplacé par Jean Castex, car c'est une étape, ça aussi, sur la route de la présidentielle. Deux candidates s'y sont donc arrêtées, Anne Souhaitement, la socialiste Anne Hidalgo et Valérie Pécresse à droite. Gros succès pour la candidate LR.
J'aimerais enfin saluer le courage dont a fait preuve Valérie Pécresse.
Elle est incontestablement la star de la soirée. En se rendant avant Noël à Erevan et dans le Haut-Karabakh, après la guerre éclair de 2020, Valérie Pécresse a marqué des points auprès des 600 000 Français d'origine arménienne et compte bien capitaliser dessus.
Vous le savez, ce déplacement m'a valu des menaces. Et je tiens à le dire ici solennellement, ces menaces ne m'intimident pas.
À deux mois du premier tour, la candidate de la droite aurait dû dîner face à Emmanuel Macron. Mais retenu par sa tournée diplomatique, le président fait faux bond au dernier moment.
Permettez-moi de vous faire part de la déception à l'annonce de l'absence du président de la République.
Mettant en colère les organisateurs.
L'Arménie compte-t-elle moins que l'Ukraine ?
Dépêché en urgence, Jean Castex tente de défendre le bilan arménien d'un président bientôt candidat.
Le président a voulu que cette date du 24 avril soit la journée de commémoration du génocide arménien. C'est chose faite.
La question arménienne en jeu de campagne également pour la candidate socialiste Anne Hidalgo.
En 1963, le président Kennedy a dit aux Berlinois « Ich bin ein Berliner ». Eh bien moi, j'ai envie de vous dire « Yeal Raim Yem ».
Faute d'invitation, pas d'Éric Zemmour hier soir, mais l'un de ses porte-parole était bien là.
Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ravis d'avoir leurs 500 signatures. Ça y est, c'est fait pour la présidentielle.
Il est 8h11, près de 400 000 personnes les utilisent, Florence, essentiellement la nuit, pour éviter les apnées du sommeil.
Des respirateurs de marque Philips qu'il faudrait remplacer car ils sont défectueux. On parle même de risque de cancer. C'est la marque elle-même qui l'a annoncé l'été dernier en promettant de reprendre les appareils pour en donner d'autres. Sauf qu'elle ne l'a quasiment pas fait. Véronique Julia, Philips a donc été rappelé à l'ordre hier par les autorités sanitaires.
En propulsant de l'air sous pression dans les voies respiratoires pendant le sommeil ou pendant la journée, ces appareils de ventilation commercialisés depuis une dizaine d'années aident les patients à respirer. Sauf qu'en juin dernier, Philips, qui domine le marché en France, avait annoncé le rappel de ces appareils à cause d'un composant défectueux. Il s'agit en fait d'une mousse insonorisante placée à l'intérieur de l'appareil. En se dégradant, elle relâche deux composés organiques volatiles qui peuvent provoquer irritation, maux de tête, asthme et qui seraient même associés à un risque potentiel de cancer. Problème, le rappel annoncé il y a quelques mois n'a pas été suivi d'effet. À ce jour, 7% seulement des respirateurs en question ont été remplacés. Inquiétude des associations de patients, impatience de l'agence du médicament, sa directrice adjointe, le docteur Caroline Semaille.
Cette situation n'est pas acceptable pour les patients et le nombre d'appareils de ventilation défectueux remplacés est à ce jour clairement insuffisant.
L'agence du médicament tape aujourd'hui le poing sur la table et demande à Philips d'accélérer la cadence et d'avoir remplacé les trois quarts de ses appareils au mois de juin prochain sous peine de poursuite. Elle compte lancer aussi une étude épidémiologique sur les risques encourus. En attendant, elle recommande aux patients de ne pas arrêter de se servir de leurs appareils. Elle considère en effet qu'en l'état des connaissances, le bénéfice de ces ventilateurs l'emporte sur le risque.
Véronique Julia, 235 000 nouveaux cas de Covid hier. La baisse des contaminations se confirme de jour en jour. Depuis la fin janvier, les admissions en réanimation sont aussi en repli. Et si en France, 80% de la population est vaccinée, on ne peut pas en dire autant ailleurs. Malgré le système COVAX lancé il y a un an, les pays riches payent des vaccins pour les pays pauvres. 1 milliard de doses livrées, mais à Madagascar, par exemple, seuls 11% des populations ciblées ont été vaccinées. Reportage dans la capitale Antananarive avec Rémi Brancato qui a suivi des ONG. Elle tente de convaincre des habitants plutôt sceptiques.
Des haut-parleurs sur le toit d'une voiture. L'ONG Assos se déplace dans les rues du quartier pauvre de Lalambi. Michela, micro à la main, invite les passants à se faire vacciner.
On fait des animations partout.
Pas question pour ce jeune homme très réticent.
On peut se soigner avec les plantes naturelles, tout ce qui est naturel, oui.
Les gens disent que les vaccins rendent les personnes en infertilité. On explique que ça, c'est impossible.
À Madagascar, les autorités valorisent les remèdes à base de plantes et n'ont fait entrer les vaccins qu'au mois de mai l'an passé. Alors dans ce quartier, le docteur Annie Raeriso-Anjato coordonne l'opération de vaccination temporaire au plus près des habitants touchés par la maladie.
Parce que les maisons sont très serrées, il y a beaucoup de personnes dans chaque maison, il y a beaucoup de malades.
Hors de la capitale, le problème est logistique pour livrer les villages enclavés. Madagascar a reçu 4 millions de doses et espère atteindre 9 millions de primo-vaccinés fin 2020. Ambitieux pour le docteur Djaria Toussal qui coordonne la distribution du vaccin à l'UNICEF.
Il faudrait qu'on accélère 10 fois plus pour atteindre l'objectif, c'est pas réaliste. Il faut qu'il y ait plus d'engagement au niveau politique afin que les populations soient vaccinées.
Et même si les objectifs sont atteints, à peine plus de la moitié des personnes cibles seront vaccinées à la fin de l'année.
En Coupe de France, Monaco décroche son ticket pour les demi-finales. Victoire sur Amiens 2-0 hier soir avant le duel Bergerac-Versailles. Les deux clubs de 4e division ce soir à Périgueux. C'est une voix rare et puissante qu'on va entendre à présent. Une voix qui fait trembler la dictature chinoise. Celle d'Ai Weiwei, artiste et dissident, qui publie ses mémoires 1000 ans de joie et de peine. Un livre qu'il a décidé d'écrire quand il était en prison en 2011 pour que son fils connaisse les luttes que son grand-père et son père ont menées contre la tyrannie du pouvoir chinois. Isabelle Pasquier l'a rencontré.
Ai Weiwei a osé un doigt d'honneur devant la place Tiananmen. Sa révolte contre les atteintes à la liberté, à la justice, c'est la matière de son art. À travers ses mémoires, il veut que les horreurs subies par son père, le grand poète Ai Ching, ne tombent pas dans l'oubli. Le poète ami de Neruda, obligé de nettoyer les latrines dans un camp de redressement idéologique. Parmi des scènes terrifiantes, pendant la révolution culturelle, exilé dans la petite Sibérie, Ai Weiwei aide son père à brûler tous ses livres, une scène fondatrice pour l'artiste activiste qu'il est devenu.
J'avais 10 ans, j'étais jeune. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ces beaux livres devaient être brûlés. Et je me suis rendu compte qu'un individu pouvait avoir du pouvoir.
Dans ce livre, Ai Weiwei explique « Si l'art ne s'engage pas, l'art n'a pas d'avenir ».
Je crois que pour un artiste et un bon écrivain, c'est un engagement. Une fois que vous avez acquis une conscience, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est notre conscience.
Et Ai Weiwei dénonce aussi l'Occident qui abandonne les droits de l'homme.
Voilà, 1000 ans de joie et de peine aux éditions Buchet-Chastel. J'ajoute, puisqu'on en parlait hier, que la chanteuse Adèle a raflé la mise hier au Brit Awards, meilleur album, chanson de l'année, artiste de l'année.
Merci Florence Paracuelos et bravo à elle. Marie-Pierre Planchon, la météo.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, pas mal de brouillard.
Et oui Nicolas, prudent sur les routes, hein, car les visibilités sont réduites dans le Val-de-Saône, le Val-de-Seine ou vers le Mans ou Alençon, ou comme dans le pays nantais. Et après la dissipation des brumes matinales, eh bien le soleil brillera sur les trois quarts du pays, sauf sur le nord-ouest où des résidus de perturbations tournant autour des îles britanniques entraînent une belle couverture nuageuse encore de la Bretagne au Pays de la Loire, à la Normandie, aux Hauts-de-France, aux Ardennes. Et puis dans le sud, on a un bon vent marin qui souffle dans le golfe du Lion et qui pousse pas mal d'entrées maritimes. Et le mercure est descendu bien bas ce matin, comme dans la Drôme à 10, il fait moins 6, moins 5 au Puy-Loude, moins 2 à Guéret, au Bergerac ou à Albi, moins 1 à Strasbourg, 3 à Paris ou Nîmes. Il fait 7 à Calais, mais 13 à Saint-Jean-de-Luz.
Et l'après-midi sera ensoleillé.
Oui, avec un soleil conquérant qui apportera un petit air de printemps, même dans le sud. Le soleil va repousser les nuages sur les régions du nord-ouest et du nord avec de très belles éclaircies. Dans le golfe du Lion, le vent marin portera encore un peu de grisaille sur le Languedoc et le Roussillon. Ce sera donc la journée la plus douce de la semaine. Il fera 10 à Rennes et au Havre, 12 à Paris et Nancy. Comptez 14 à Lyon, 16 à Limoges, à Antibes et Marseille, 19 à Mayonne. Mais la nuit prochaine, une perturbation va rentrer par la Manche.
Merci Marie-Pierre. France Inter, il est 8h18. Géopolitique.